Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Napoléon, dans l'intimité d'un règne » est un ouvrage historique de Dimitri Cassali publié chez Larousse en 2024. Présenté en grand format cartonné, il s'inscrit dans la catégorie des livres documentaires consacrés au Premier Empire et à la figure de Napoléon Bonaparte. Son ambition n'est pas seulement de rappeler les grandes étapes d'un destin politique exceptionnel, mais de faire revivre un règne dans sa dimension la plus concrète, à travers une abondante iconographie, des facsimilés et une mise en page pensée comme un objet de consultation autant que de lecture. Le livre retrace l'ascension de Napoléon, du jeune Corse appliqué au stratège devenu empereur, en passant par le 18 Brumaire, le sacre, les campagnes militaires et les relations personnelles qui structurent sa vie publique. Il s'adresse ainsi aux lecteurs qui cherchent une synthèse visuelle et tarichiquement documentée sur Napoléon, avec un angle centré sur l'intimité du pouvoir autant que sur la légende impériale. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une biographie impériale centrée sur l'ascension de Napoléon. Le livre suit la trajectoire de Napoléon depuis ses origines corses jusqu'à son accession au sommet de l'État. Cette progression n'est pas traitée comme une simple chronologie événementielle, mais comme la construction d'une figure politique d'exception façonnée par le mérite scolaire, l'ambition militaire et l'habileté stratégique. En présentant le jeune Bonaparte comme un étudiant assidu devenu un chef de guerre puis un maître du pouvoir, l'ouvrage éclaire les mécanismes de sa réussite. Cette approche permet de comprendre comment un parcours individuel se transforme en destin historique. Le lecteur voit ainsi se dessiner les étapes majeures de la formation napoléonienne, avec une attention particulière portée au moment de bascule qui font entrer le général dans une autre échelle de responsabilité. L'intérêt de ce cadrage tient au fait qu'il relie la biographie personnelle à l'histoire politique de la France sans isoler les deux dimensions. Deuxièmement, le 18 Brumaire et le sacre comme moment fondateur du régime, l'ouvrage accorde une place importante aux deux grands actes de naissance du pouvoir napoléonien, le coup d'État du 18 Brumaire et le sacre à Notre-Dame. Ces épisodes ne sont pas seulement évoqués comme des dates célèbres, mais comme des gestes politiques qui donnent une forme institutionnelle à l'ambition de Napoléon. Le 18 Brumaire marque la prise de contrôle de l'État par une combinaison de force, de calcul et de légitimation, tandis que le sacre transforme cette conquête en souveraineté symbolique. Le livre permet de lire ces deux scènes comme complémentaires. L'une montre la rupture avec le désordre politique, l'autre la mise en scène d'un pouvoir stabilisé et sacralisé. Cette articulation est essentielle pour comprendre le Premier Empire, car elle révèle que le régime napoléonien repose autant sur l'efficacité du coup de force que sur la maîtrise de la représentation. L'ouvrage donne ainsi des repères clairs sur la fabrication d'une autorité impériale. Troisièmement, la vie intime de l'empereur comme clé de lecture du pouvoir. Comme son titre l'indique, le livre cherche à pénétrer l'intimité d'un règne, ce qui signifie qu'il ne se limite pas aux batailles et aux institutions. Les relations de Napoléon avec Joséphine puis Marie-Louise, les équilibres familiaux et les dimensions personnelles du pouvoir sont intégrés à la réflexion historique. Cette perspective est importante car elle montre que le gouvernement impérial ne se résume pas à des décisions militaires ou administratives. Il s'enracine aussi dans des choix matrimoniaux, des dynamiques affectives et des besoins de représentation dynastique. En mettant en regard l'homme privé et le chef d'État, l'ouvrage aide à comprendre les tensions entre sentiments, devoirs politiques et construction d'une légitimité durable. L'intimité n'est donc pas traitée comme un divertissement biographique, mais comme une voie d'accès à la logique du règne. Le lecteur saisit mieux comment la sphère personnelle influe sur la mise en scène du pouvoir et sur l'image de l'empereur. Quatrièmement, une forte dimension documentaire portée par les images et les facsimilés, l'un des traits distinctifs du livre est sa richesse iconographique. Les sources évoquent une véritable malle au trésor composé de facsimilés, d'illustrations et de documents visuels qui accompagnent le récit. Ce choix éditorial change la manière d'aborder Napoléon, car il ne s'agit plus seulement de lire une biographie, mais de manipuler un ensemble de traces qui donne une matérialité à l'histoire. Les images servent à documenter les épisodes majeurs, à restituer l'atmosphère du règne et à renforcer la compréhension des objets, des uniformes, des actes ou des représentations liées à l'Empire. Cette présence visuelle n'a pas seulement une fonction décorative, elle participe à la transmission historique en rendant l'époque plus mimlimosa et plus accessible. Pour un lecteur intéressé par l'histoire culturelle autant que politique, cette dimension documentaire constitue un atout majeur car elle replace Napoléon dans un univers de signes, de documents et de mise en scène concrète. En dernier lieu, un ouvrage de vulgarisation historique entre synthèse et mémoire du Premier Empire, Napoléon, dans l'intimité d'un règne, se positionne comme une synthèse destinée à un large public passionné d'histoire. Il ne prétend pas rivaliser avec les grandes monographies universitaires, mais il offre une porte d'entrée solide, lisible et richement illustrée sur le Premier Empire. Cette position intermédiaire est l'une de ses forces, car elle permet de conjuguer accessibilité du propos et sérieux documentaire. Le livre semble particulièrement adapté à ceux qui veulent revisiter la période napoléonienne sans se perdre dans une spécialisation excessive. En replaçant Napoléon dans la mémoire collective à travers ses grandes étapes, ses images et ses objets, l'ouvrage remplit aussi une fonction patrimoniale. Il aide à comprendre pourquoi la figure de l'empereur continue de susciter commémoration, débat et fascination. Son originalité tient donc à cette capacité à faire dialoguer la vulgarisation historique, la biographie politique et le livre-objet, ce qui le distingue d'un simple récit chronologique. En conclusion, ce livre s'adresse en priorité aux lecteurs qui souhaitent découvrir ou redécouvrir Napoléon Bonaparte à travers un format à la fois informatif et visuel. Il convient aux amateurs d'histoire du Premier Empire, aux passionnés de biographie impériale, mais aussi à ceux qui recherchent un ouvrage de référence plus accessible qu'une étude savante. Son principal intérêt est de proposer une lecture incarnée du règne, où les grandes dates, les choix politiques et la dimension intime se répondent constamment. L'abondance des illustrations et des facsimilés le distingue nettement de beaucoup d'autres livres sur Napoléon, souvent plus austères ou plus strictement narratifs. Ici, l'objet lui-même participe à la transmission du savoir historique. On y gagne une compréhension plus immédiate de l'époque, des symboles du pouvoir et de la construction de la légende impériale. Pour qui veut un ouvrage sérieux, riche et consultable, capable de donner à voir autant qu'à expliquer, ce titre occupe une place singulière dans la bibliographie napoléonienne. Si vous souhaitez soutenir Dimitri Casali, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt !